La 7 vous offre l'heure.
À Radio Rythme Bleu, 6h30.
La 7, c'est 6 magasins pour vous accompagner dans tous vos projets. Construire, rénover, aménager. Retrouvez nos bons plans sur Facebook ou sur 7.nc.
Info matin, Nicolas Legrand.
Une cinquième église touchée par un incendie à Balade. L'édifice a été dégradé au niveau du tabernacle. Les pompiers sont intervenus rapidement. Des tags anti-chrétiens et anti-maçonniques ont été découverts sur les murs. Un comité interinstitutionnel mis en place. Il est chargé d'assurer la mise en œuvre du plan quinquennal de reconstruction et d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie par l'État. Explication dès le début de ce journal. L'actualité politique nationale, Michel Barnier continue de consulter. Le nouveau Premier ministre a reçu le groupe Liotte après avoir déjeuné avec le chef de l'État. Demain, il s'entretiendra avec le groupe macroniste Ensemble pour la République. Un homme lance un appel à l'intifada dans Paris. Cet influenceur communautaire fait l'objet d'un signalement du ministère de l'Intérieur. Du sport avec du football aujourd'hui, la Ligue des Nations. La France mène 1-0 contre la Belgique. Un but de Randal Kolo Muani à la demi-heure de jeu. Le match se déroule à Lyon. La météo en Nouvelle-Calédonie. Sur l'ouest, les nuages venus du relief s'étalent jusqu'en mer, mais le temps reste sec. Ailleurs, les nuages sont encore nombreux, puis de belles éclaircies se développent, notamment sur l'est. Le vent s'oriente de secteur sud-est et se renforce. Quant aux températures maximales, elles sont stables de 24 à 27 degrés et localement 28 à 30 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité sur le territoire.
Oui, accidentel ou criminel, toujours est-il que les feux de végétation se multiplient ces derniers jours. Hier soir encore, vers 18h, un feu de brousse s'est déclaré à Tindu, rue Georges Potin, sur une hauteur à proximité de Nimbo. Les pompiers de Nouméa sont intervenus rapidement. Le sinistre a été circonscrit aux alentours de 20h30. Une surface de près de 3 hectares a été brûlée. La zone va donc rester sous surveillance aujourd'hui en raison de risques de reprise favorisés par deux vents forts. Et puis, je le disais en titre, un nouvel édifice religieux a été visé, lui, par les émeutiers très tôt hier matin. C'est l'église Saint-Denis de Balade qui a été dégradée, Léo Fichou.
Il était en effet 4h30 dans la nuit de dimanche à hier lorsqu'une tentative d'incendie a été constatée. L'alerte a été donnée par un enseignant et les pompiers ont pu intervenir très rapidement. Les dégâts sont donc limités. Un incendie sans aucun doute d'origine criminelle puisque des tags anti-chrétiens et anti-francs-maçons ont été inscrits sur les murs de l'église. Écoutez Marc Dubois, habitant de Puebo et qui aide régulièrement le prêtre de la paroisse.
Le père Vincent, il me disait que c'était uniquement le tabernacle qui a brûlé, quoi. Mais bon, comme le tabernacle, c'est pas un petit truc, c'est un très gros truc qui date de la construction de l'église de Balade, quoi. C'est très regrettable de faire des choses pareilles, plutôt à l'église de Balade. Quand on sait que la première messe qui a été c'est à Balade, au lieu d'imam, c'est regrettable. Il n'y a pas de mots à. On ne peut pas qualifier ce genre de trucs que quand on voit Balade, mais que Saint-Louis, partout, toutes les églises sont exception, parce que là, on s'en trompe pas à qui. Je ne sais pas, moi.
Dans un communiqué, le maire de Puebo condamne avec la plus grande fermeté cet acte qui porte atteinte à un édifice religieux appartenant à l'histoire et au patrimoine de la commune. Florentin Dédane rappelle qu'un geste de pardon avait été posé par l'Église catholique en 1993. Il apporte son soutien entier à la communauté catholique de Balade ainsi qu'à l'ensemble de la communauté catholique de Calédonie et il appelle les personnes qui ont des informations sur cet incendie à se rapprocher de la gendarmerie de Puebo. L'église de Balade porte un fort héritage historique. C'est la première église construite en Calédonie et ses vitraux évoquent notamment l'installation des missionnaires maristes. Et elle se trouve à l'endroit où a commencé l'évangélisation de la Nouvelle-Calédonie.
Et l'église de Balade est la cinquième église victime d'attaques par incendie depuis le début des émeutes. L'église de Saint-Louis et les bâtiments de la mission ont été entièrement détruits par un incendie criminel. Les églises de Vao à l'île des Pins, le presbytère de Thiomission, la chapelle de Touau et l'église de Point-d'Imier ont été aussi partiellement incendiés ou vandalisés. Et alors que les pompiers du territoire continuent donc de faire face à des incendies criminels comme celui-ci, il faut désormais ajouter à cela les feux de brousse. Avec une saison plutôt sèche et des vents parfois soutenus, la Nouvelle-Calédonie connaît une reprise d'incendies. Même s'ils sont la plupart accidentels, certains sont criminels. Quoi qu'il en soit, ils présentent un risque réel pour la population. Alors, quelle vigilance faut-il avoir? Quels sont les moyens dont dispose la Nouvelle-Calédonie pour lutter contre ces incendies? Nous en parlerons ce matin avec le contrôleur général Frédéric Marchilecchia, directeur de la sécurité civile. Il sera en effet notre invité à 7h30. Et puis on vous en parlait dès hier matin, un jeune automobiliste de 24 ans est mort dimanche soir à Kouaoua. D'après les premiers éléments de l'enquête, le conducteur qui n'était pas attaché faisait du drift sur une piste en terre vers 23h. Il a perdu le contrôle de son véhicule qui a fait plusieurs tonneaux avant de finir sa course dans le lit de la rivière. La victime a été éjectée, le passager avant a été blessé et évacué vers le dispensaire de La Foy. Les deux passagers arrière, eux, sont indemnes. Ce drame porte à 18 le nombre de morts sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h36 minutes.
Et j'en parlais tout à l'heure en titre avec la constitution du comité interinstitutionnel chargé d'assurer la mise en œuvre du plan quinquennal de reconstruction et d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie par l'État. Il a en effet été mis en place hier après-midi au Congrès, Isabelle Pelletier.
Ce comité interinstitutionnel a été instauré par la résolution adoptée le 28 août dernier par les élus du Congrès, résolution qui actait l'idée d'un plan en 2024-2029 de financement de la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 500 milliards de francs CFP. La présidente et les chefs de groupe du Congrès, les présidents des assemblées de la province sud et de la province des îles, des représentants du Sénat coutumier et du CESE, les présidents des associations des maires et les parlementaires étaient présents hier lors de cette séance. L'objectif de ce comité interinstitutionnel est à terme de négocier avec l'État la mise en œuvre de ce plan. Vilma Falayo, la présidente du Congrès, est satisfaite de voir les partenaires réunis hier après-midi pour porter ce plan quinquennal.
C'est vraiment une chose positive en tant que présidente du Congrès, puisque que ce soit les parlementaires, les présidents des provinces ou encore les chefs des différents groupes étaient présents, les présidents des associations des maires. C'est vraiment la volonté commune affichée de pouvoir porter la voix des Calédoniennes et des Calédoniens à Paris, et c'est ce que nous retenons. La prochaine phase maintenant, c'est de réunir la commission des forces vives, qui est prévue aussi dans la résolution que nous avons votée. Et donc là, on pense aux chambres consulaires et aux représentations syndicales et patronales. Donc ce rendez-vous sera pris lundi prochain.
Virginie Rufnac, chef du groupe Rassemblement Congrès, souligne une forme d'union sacrée.
Il y a une vraie volonté d'unité territoriale de tous les groupes politiques sur la défense des Calédoniens et solliciter cette aide indispensable de l'État financière pour redresser notre territoire et sortir les Calédoniens de la très grande difficulté dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui. Et la puissance publique aujourd'hui doit aller de l'avant pour reconstruire un certain nombre d'établissements, d'organismes. Et c'est tout l'enjeu de ce comité interinstitutionnel qui effectivement est une forme d'union sacrée, transpartisane. Le temps des règlements de compte viendra sans doute plus tard, ou en tous les cas, il n'est pas venu.
Pierre-Chanel Tutugoro, chef du groupe UC et FLN KC, nationaliste au Congrès, estime quant à lui que l'union est nécessaire pour pouvoir réussir à porter ce plan à Paris.
Beaucoup d'échanges, parce qu'il y en a aussi un certain nombre de partages qu'il fallait faire pour qu'on puisse expliquer ce qu'on attend de chacun de ceux qu'on a invités aujourd'hui, notamment les parlementaires. Donc il y a un travail de lobby à préparer à Paris. L'idée étant, puisque nous sommes quand même dans une démarche assez forte, quand même de pouvoir bénéficier de la part de l'État d'un plan quinquennal d'un financement sur 5 ans, de 100 milliards par an. La réunion d'aujourd'hui, il était une réunion de responsabilité, qu'on puisse réussir ce pari osé.
Les deux députés calédoniens Nicolas Metzdorf et Emmanuel Tchibaou vont porter à Paris ce plan quinquennal de 500 milliards sur 5 ans et tenter d'assurer sa prise en compte à la fois dans le discours de politique générale du nouveau Premier ministre Michel Barnier et dans la perspective du budget 2025.
L'actualité politique est l'UPM qui suspend sa participation au fonctionnement du FLNKS jusqu'à son prochain congrès qui est prévu les 9 et 10 novembre à Poum. La décision a été prise samedi par le comité central de l'Union progressiste en Mélanésie et annoncée hier par un communiqué. Elle fait suite bien sûr au pseudo-congrès du FLNKS qui s'est tenu fin août à Koumac en l'absence du Palika et de l'UPM. Pour justifier sa décision, l'UPM tient à réaffirmer sa fidélité à la symbolique de la poignée de main de Matignon et à la nécessité d'une clarification stratégique au sein du FLNKS. Elle indique aussi qu'elle ne se reconnaît pas dans les actions commises depuis le 13 mai. Les précisions de Victor Tutugoro, le président de l'UPM.
Nous avons décidé de suspendre notre participation au fonctionnement du FLNKS après avoir indiqué que nous ne nous reconnaissions pas dans toutes les exactions, tous les événements qui sont survenus depuis le 13 mai. après avoir demandé des clarifications sur la stratégie du front, après avoir demandé de faire la promotion des conditions d'un débat serein et apaisé au sein du FLNKS. Nous avons constaté donc la tenue de cette réunion au nom du FLNKS. Et donc, pour tous ces constats, pour manifester notre lassitude de n'être pas entendu, nous avons décidé de suspendre effectivement notre participation à toute la vie, à tout fonctionnement du FLNKS, jusqu'à notre prochain congrès qui devra se tenir les 9 et 10 novembre prochains à Poum. Suspendons tout, nous suspendons toute notre participation à la vie du FLNKS jusqu'à notre congrès.
Et cela signifie donc que l'UPM ne prendra pas en charge l'animation du bureau politique du FLNKS et qu'elle devait donc assurer à partir de la fin du mois de septembre. On peut penser que le PALIKA ne voudra pas non plus assumer cette charge. Le fonctionnement du FLNKS va donc reposer uniquement sur l'UC et le RDO, à moins qu'ils ne veuillent y associer les petits partis et syndicats qu'ils ont intégrés lors du congrès controversé de Koumac. L'UPM, de son côté, rappelle qu'elle siège en formation unie avec le PALIKA et que c'est dans cette configuration qu'elle participera à d'éventuelles discussions en attendant son congrès des 9 et 10 novembre à Poum. Il est 6h passé de 41 minutes. L'actualité politique en métropole, ce sera juste après la pause avec Michel Barnier qui continue de rencontrer les groupes parlementaires.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et toi, tu sais comment on reconnaît le goût d'un bon café en Calédonie ?
Ça commence par... Après ça fait... Ensuite ça fait... Et là,
Tu connais ?
Eh oui, c'est la boîte Nescafé. Un café au goût unique, riche et intense. La boîte Nescafé, le vrai goût calédonien.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 6h-8h, Nicolas Legrand.
L'actualité politique nationale et Michel Barnier qui continue donc ses consultations. Les députés et représentants LIOT, Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, ont défilé à Matignon après que Michel Barnier a déjeuné avec le chef de l'État. Et la question qui se pose désormais, c'est la suivante. Marine Le Pen a-t-elle intérêt à soutenir le nouveau Premier ministre ? La chef des députés RN expliquait la semaine dernière vouloir attendre le discours de politique générale avant de se prononcer. Mais désormais, elle n'envisage plus de renverser Michel Barnier, même si elle maintient la pression. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Effectivement, Marine Le Pen temporise sur le plan tactique. Cela lui permet de ne pas apparaître comme source de blocage et de chaos politique. En parallèle, la chef du RN entend profiter au maximum de son rôle de faiseuse de Premier ministre. Son pouvoir de vie ou de mort sur Michel Barnier lui confère un niveau d'influence inédit. Sans être directement aux responsabilités, le RN a l'opportunité de vraiment peser sur la conduite des affaires publiques. Une première dans l'histoire de la Ve République. Marine Le Pen pose donc ses conditions et exige que le futur gouvernement traite plusieurs sujets, l'immigration, le pouvoir d'achat ou encore la proportionnelle pour les prochaines législatives. Le revers de la médaille, c'est que la patronne du RN perd momentanément son rôle d'opposante radicale qui fait sa marque de fabrique. Toute la question est de savoir jusqu'à quand. L'examen du budget sera de ce point de vue un révélateur important.
Arthur Delaborde pour Europe 1, Michel Barnier qui demain aura une première rencontre avec les députés du groupe macroniste Ensemble pour la République.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier tout d'abord. 95% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS se disent satisfaits de la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre. Ils ne sont donc que 5% à ne pas partager cet avis. Voici maintenant notre question du jour. Maintenant que les Jeux Olympiques et Paralympiques sont terminés, êtes-vous favorable au maintien des anneaux olympiques à la Tour Eiffel, comme le souhaite Anne Hidalgo ? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1. Si vous y êtes opposé, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Dans le reste de l'actualité en métropole, un appel qui fait froid dans le dos. Écoutez, c'était hier à Paris, place de la Nation.
Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada dans Paris ? Dans nos banlieues ? Dans nos quartiers ?
L'intifada dans Paris, dans nos banlieues, dans nos quartiers, des propos abjects et qui, en l'occurrence, pourraient tomber sous le coup de la loi. Ils sont prononcés par le militant islamiste Elias Dimzalen. Selon certaines informations, le ministère de l'Intérieur est en train de rédiger un signalement au procureur de la République au titre de l'article 40. Et ce quadragénaire est déjà très connu des services de police, William Molinier.
Et c'est l'un des créateurs du site Islam et Info, Elias Dimzalen. De son vrai nom, Elias Zareli est un militant pro-palestinien, membre actif du collectif Urgence Palestine. Il se présente lui-même comme un influenceur communautaire et politique musulman. Il est, selon les informations d'Europe 1 fiché S par les services de renseignement, ces derniers le considèrent comme l'un des principaux acteurs de la diffusion de la thèse selon laquelle l'État français serait islamophobe. D'ailleurs, il relaie cette idée un peu partout sur ses réseaux, sur ses médias, avec comme argument phare l'interdiction du port de l'abaya à l'école. La cause palestinienne lui permet de faire avancer l'agenda islamiste. Ce Français d'une quarantaine d'années, réputé proche des frères musulmans. À la fin des années 2010, il était très actif au sein de la mosquée de Torcy en Seine-et-Marne. Il y prônait le séparatisme et appelait les fidèles à arrêter d'être des Français légalistes, républicains et patriotes. Dimzalen a ses entrées au Parlement européen. Il a été invité en 2022 à une conférence sur l'islamophobie. Depuis, il s'est fait une place autour de plusieurs députés de la France insoumise, parmi eux Ersilia Soudé, Thomas Porte ou encore Rima Hassan.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Un suspect a été identifié au lendemain de la mort de Lilian Dejean, cet employé municipal de 49 ans, tué par balle dimanche matin à Grenoble alors qu'il tentait d'empêcher un automobiliste qui venait de provoquer un accident de s'enfuir. Cet automobiliste est un homme déjà connu de la justice et il est activement recherché. Quatre perquisitions ont déjà été menées dans des endroits où il pourrait habiter. Plusieurs hommages ont par ailleurs été organisés sur les lieux du drame en présence de proches de Lilian Dejean, mais aussi un peu plus tôt dans la journée sur les marches de l'hôtel de ville. Écoutez Salima, elle est employée de la collectivité territoriale et elle militait aux côtés de Lilian à la CGT.
C'est terrible ce qui s'est passé, il a été abattu froidement alors qu'il donnait secours. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, on est tous bouleversés parce que Lilian, et c'était une personne rayonnante, solaire, une personne engagée, militant, avec cette ADN du service public dans l'âme. C'était tellement une belle personne, il est parti en héros, j'allais dire, mais aujourd'hui, il a laissé sa vie. Et c'est tout le service public qui aujourd'hui est attristé, endeuillé. L'agglomération grenobloise est très impactée par la question de la violence. On en a encore la preuve aujourd'hui. Et on demande aujourd'hui au gouvernement de s'emparer de cette question de la violence, des armes, et de réagir et de donner les moyens au pouvoir public et à toutes les collectivités de pouvoir faire leur travail convenablement et d'éradiquer cette question de la violence. On ne peut pas se retrouver sur un lieu de travail comme ça à 7h du matin et se faire abattre froidement, en plus en donnant secours à quelqu'un.
Salima, une collègue de Lilian Dejean, tuée par balle donc dimanche à Grenoble. Justice toujours avec la reprise du procès des viols de Mazan. Les experts ont dressé le portrait d'un homme aux deux visages. D'un côté, une normalité de façade et de l'autre, un nombre exceptionnel de paraphilie, c'est-à-dire de déviance, selon l'expert psychiatre. Cet homme est en effet accusé d'avoir drogué son épouse afin d'obtenir d'elle tout ce qu'elle lui refusait. Elle était notamment violée par des hommes qui étaient recrutés sur Internet. Une personnalité clivée, selon le docteur Pierre Bensoussan.
C'est-à-dire que dans une même personnalité peuvent coexister des réalités différentes et incompatibles, qui coexistent néanmoins, d'où la cécité psychique de l'entourage. Cette affaire est une énigme à la fois psychiatrique, psychologique et surtout sexologique, car il est très difficile de mettre dans la même case M. Pellicot et les 50 co-accusés.
Et l'accusé Dominique Pellicot était absent pour raison médicale. Il devrait être présent demain dans le box si son état de santé lui permet d'assister au débat. Et puis enfin, c'est la polémique du moment à Paris. Anne Hidalgo a déclaré que la vitesse sur le périphérique parisien serait baissée à 50 km/h à partir du 1er octobre. Alors ce n'est pas acté, car cette décision n'appartient pas à la maire de Paris seule. Le futur ministre des Transports devra aussi se prononcer. Jusqu'ici, le ministère était contre, tout comme le préfet de police de Paris, qui gère plusieurs tronçons du périphérique. Une décision purement dogmatique, fustige Pierre Chasseret. Il est le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes.
On ne sait absolument pas dans cette mesure si elle va être en capacité de fluidifier le trafic ou d'avoir un impact positif sur la pollution, tout simplement parce que la mairie n'a procédé à aucune étude de report de trafic, à aucune étude d'impact sur la qualité de l'air.
Pas de garantie chiffrée sur l'amélioration de la qualité de l'air avec cette baisse de vitesse de 20 km/h. Mais pour Tony Renucci, le directeur de l'association Respire, ce sera forcément positif.
Cette mesure peut améliorer la qualité de l'air si elle amène à une fluidification du trafic et à une baisse du nombre de véhicules en circulation.
Il rappelle qu'au cours de la dernière décennie, les émissions de CO2 et les niveaux de particules fines ont baissé de 30% en raison de la baisse du trafic, mais aussi du progrès des nouvelles voitures. Il est 6h passé de 50 minutes. Vous écoutez Radio Rythme Bleu, retour en Nouvelle-Calédonie juste après la pub, avec notamment l'ouverture d'une nouvelle liaison aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Et ce sera opéré par Air Calédonie.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de votre journal, on retrouve Nicolas Legrand.
Et je le disais donc à l'instant, Air Calédonie ouvre une ligne vers Port-Vila en coopération avec Air Calin. Le premier vol sera opéré le 3 octobre par un ATR-72-600 au départ de la Tontouta. Deux rotations hebdomadaires sont programmées les lundis et jeudis. Il s'agit là d'un rapprochement avec la compagnie internationale Air Calin, puisque le vol sera vendu en codeshare. Air Calédonie qui estime que la demande est importante pour cette liaison avec le Vanuatu. Écoutez Marion Gentelet, la directrice commerciale d'Air Cal.
On est vraiment dans une logique de coopération entre Air Calédonie et Air Calin. Donc, dans la situation actuelle, ça correspond aussi à une attente des clients, puisque la ligne Port-Vila n'est plus aujourd'hui assurée de manière régulière. Donc ce projet arrive tout à fait dans un bon timing, puisque Air Calédonie effectivement avait l'ambition depuis plusieurs mois et a travaillé depuis plusieurs mois à l'ouverture de cette ligne. Mais aujourd'hui, ça prend tout son sens compte tenu de la situation, à la fois pour Air Calédonie qui a besoin de retrouver du trafic et d'aller chercher de l'activité. Et puis également, dans le cadre des besoins d'Air Calin, de maintenir aussi un réseau pour ses clients. Donc voilà, le projet est tout à fait adapté. Ça reste une destination qui nécessite plutôt de petits avions. Donc l'ATR est tout à fait idéal pour cette distance. Alors le temps de vol en ATR est d'1h30 entre Nouméa et Port-Vila. Donc nous allons l'opérer deux fois par semaine pour répondre à la demande sur la destination.
Les vols seront donc commercialisés dans les points de vente des deux compagnies, et notamment sur leur site internet. Les lundis et jeudis, les départs de la Tontouta auront lieu à 15h et les vols retour se poseront à 19h.
Radio Rythme Bleu, 6h52.
L'actualité sanitaire avec une recrudescence de cas de coqueluche en Nouvelle-Calédonie. Cette année, 30 cas ont été signalés, dont 7 rien que la semaine dernière. Une campagne a donc été lancée par la DAS pour sensibiliser les personnes concernées, Léo Fichou.
Et plus précisément, la coqueluche circule de nouveau en Calédonie depuis juillet dernier, mais c'est en août que les cas détectés ont explosé. 17 patients ont été indiqués comme atteints de cette maladie contagieuse, une maladie qui se transmet par la toux et qui peut devenir sévère chez les personnes fragiles qui ne sont pas encore protégées par la vaccination. Les nourrissons sont donc la cible privilégiée de ces campagnes de sensibilisation et de vaccination. Les précisions du docteur Anne Fanstil, médecin à la DAS.
C'est une maladie très contagieuse. Donc dès qu'on a quelques cas, nous, on lance l'alerte. Vu la contagiosité de la maladie, ça sévit depuis plusieurs mois en métropole, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc on savait bien que ça allait être introduit un jour ou l'autre en Calédonie. Alors les symptômes, c'est tout d'abord un nez qui coule, un peu comme une grippe. Et après, une petite toux. Et dans les semaines qui suivent, ça va être une toux qui va se prolonger et qui peuvent être dangereuses pour les bébés, les petits nourrissons qui ne sont pas vaccinés. Ça va être des quintes de toux qui ne vont pas permettre aux petits nourrissons de reprendre sa respiration. Ça peut être des toux asphyxiants. Les petits bébés de la naissance à 2, 4, 6 mois ne sont pas protégés. Donc c'est chez eux qu'on va voir toute la gravité de cette maladie.
Si vous pensez avoir des symptômes de la coqueluche, isolez-vous et ne rentrez surtout pas en contact avec des femmes enceintes, des bébés ou des personnes à risque. Le port du masque est également vivement conseillé.
Un rendez-vous sur notre antenne enfin. Dans notre magazine Citoyens ce midi, nous reviendrons sur l'entrée en vigueur de la nouvelle taxe sur le sucre. Avec ses invités, Gilles Ménage s'intéressera à la fois aux questions de santé, mais aussi aux répercussions sur les professionnels de l'alimentaire. Il recevra notamment le docteur Dominique Megrawa de l'Agence sanitaire et sociale et la nageuse Solène Figuès qui a créé le centre Santéo, mais aussi Giacomo Sciocca, le directeur général de Sweety, et Jonathan Sartou, le directeur de Cake Factory, un magazine citoyen à retrouver donc ce midi sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. En attendant, il est 6h55, on va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et notamment l'équipe de France de football qui joue ce matin.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Le fitness débarque au Quartier Latin avec The Box. Un univers où l'on casse les codes avec des entraînements pour tous, des cours collectifs agréés, les MILS et des cours coachés en small group. The Box, ouverture le 30 septembre. Renseignements au 74 08 25.
Jusqu'au 30 septembre, lancez la roue de la chance Excellium avec Total Energy. Participez et gagnez des cartes cadeaux carburant. Un pack Apple avec un iPhone 15 et son AirPod Max. Un VTT électrique. Et plein d'autres cadeaux pour une valeur totale d'1 million de francs. Alors rendez-vous dans votre station Total Energy préférée pour lancer la roue de la chance et gagner des super cadeaux. Plus d'infos sur Facebook, règlement disponible en station.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et à la une ce matin du football et la deuxième journée de la Ligue des Nations, Léo Fichou.
L'équipe de France affronte actuellement la Belgique à Lyon. C'est la mi-temps, enfin ça vient de reprendre. Les Bleus mènent 1-0 grâce à Randal Kolo Muani. A noter que Didier Deschamps a procédé à de nombreux changements par rapport à la défaite. 3-1 ce week-end contre l'Italie, 8 changements au total. Pas de Kylian Mbappé ou encore d'Antoine Griezmann sur le terrain. C'est N'Golo Kanté qui est capitaine.
Du football toujours, mais sur le territoire cette fois avec la suite du trophée du Grand Nouméa.
La fin hier soir de la troisième journée avec un match en retard. Magenta s'est largement imposé 4-1 sur Gaïcha et rejoint donc Tigasport et Horizon Sport en tête du classement. Ce soir, début de la quatrième journée avec deux rencontres. Le leader Tigasport contre Gaïcha de nouveau et Mondor face à Lossi. Jeudi soir, Melec affrontera Horizon Sport et Magenta sera opposé au Wetch.
Et puis on termine avec du kitesurf. Léo, le Calédonien Antoine Olivier est vice-champion du monde.
Il participait la semaine dernière au championnat du monde junior à Tarifa en Espagne. Champion du monde en titre, il n'a malheureusement pas réussi à conserver ce titre-là. Mais pas de regret pour le jeune Calédonien qui, je cite, a pris du plaisir et a donné le meilleur sur l'eau.
Merci beaucoup Léo Fichou. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et pour les prévisions du temps, on vous retrouve Thierry.
Oui Nicolas, ce matin sur la côte ouest, la journée débute avec un franc soleil, puis des bandes de nuages déborderont du relief. Sur les autres régions, les passages nuageux seront nombreux et donneront des averses isolées. Ce sera sur la façade est et plus rarement au Loyauté. Le vent donc pour ce matin, il sera orienté à l'est-sud-est autour des 15-20 nœuds localement. Alors sur la pointe nord et Belle, plus de 20 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds. Il sera temporairement plus faible sur l'ouest au début de matinée entre 10 et 15 nœuds. Cet après-midi sur l'ouest, les nuages venus du relief s'étaleront jusqu'en mer et le temps restera sec. Ailleurs, les nuages seront encore nombreux puis de belles éclaircies se développeront, notamment sur l'est. De petites andées ne seront pas exclues sur le nord-est. Le vent tout au sud-est pour cet après-midi, il se renforce autour des 20 nœuds localement sur le sud-ouest, la pointe nord et Belleb, 20 à 25 nœuds et des rafales toujours prévues autour des 30 nœuds. Les températures maximales sont stables, 24 à 27 degrés, localement 28 à 30 degrés, ce sera sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci pour ce point complet sur la météo. Attention, des conditions météo favorables malheureusement aux incendies et aux feux de brousse, puisqu'on le sait, une grande partie du territoire est en vigilance feux de brousse, risque très élevé, risque extrême également sur Vaud et Connay pour ce matin. Merci d'avoir écouté ce journal. Je rappelle qu'il sera disponible en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité de ce mardi matin, puis le billet d'humeur de la rédaction sera signé Jean-François Bodin. Et ensuite, vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46. À tout de suite.